Hello, je suis Aurélie Gillard, ton hôte sur Tech Lipstick, le podcast des femmes qui conquièrent la tech. Tous les 15 jours, rejoins-moi pour une conversation avec des femmes inspirantes, qu'elles soient entrepreneurs, ingénieurs ou salariées dans une start-up tech. Nous échangeons sur leur parcours et sur les challenges que nous rencontrons tous dans le monde du travail d'aujourd'hui, et particulièrement en tant que femmes dans la tech. Nous en apprendrons plus aussi sur les différents secteurs de la tech, les opportunités et les challenges de cette industrie. Merci de ton soutien en t'abonnant à cette émission.
Cet épisode est spécial puisque je participe pour la première fois avec Tech Lipstick au Podcaston. C'est une initiative qui mobilise plus de 300 podcasteuses et podcasteurs pour soutenir des associations et entreprises qui œuvrent pour le bien commun. Pendant une semaine, nous publions tous un épisode dédié à l'une de ces organisations. Et pour ma première participation, moi j'ai choisi de soutenir non pas une, mais deux entreprises qui sont dans la tech for good. La première d'entre elles, c'est Latitude. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir de recevoir à mon micro une des cofondatrices de cette association qui a pour but de faire évoluer le rapport au numérique. Margot, bienvenue sur le podcast.
Merci.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Donc, je m'appelle Margot, j'ai 27 ans et je travaille du coup chez Latitude, qui est une association qu'on a créée il y a 7 ans maintenant avec Augustin, Manon et Yannick autour de la question du numérique et de comment est-ce qu'on peut utiliser les technologies au service notamment de l'intérêt général.
Alors justement, je suis ravie de t'avoir avec moi parce que vous œuvrez tous pour une tech engagée et ce sujet est cher à mon cœur. J'ai eu plusieurs invités du podcast sur ce sujet de la tech for good avec des femmes entrepreneuses qui sont vraiment dédiées corps et âme à faire progresser la société grâce au numérique. Mais c'est bien ça dont il s'agit. J'aimerais bien que tu nous expliques justement comment ça se traduit et sur quel volet vous intervenez.
Oui, alors donc effectivement, on parle dans l'association d'un numérique engagé et responsable, mais ça peut être un peu nébuleux. Le premier volet sur lequel on travaille, c'est en fait la question de la finalité du numérique, tout simplement à quoi servent les nouvelles technologies et comment est-ce qu'on arrive à faire évoluer le récit en se disant, bon bah demain en fait, les nouvelles technologies, c'est mis au service de la résolution des grands défis sociaux, environnementaux qu'on rencontre aujourd'hui. Ça peut être par exemple comment est-ce qu'on peut travailler sur de la reconnaissance d'images satellitaires de feux de forêt pour venir aider les pompiers, les accompagner dans leur mission. Ça peut être travailler sur de la détection précoce, par exemple, de cancer. C'est vraiment se dire les nouvelles technologies peuvent être mises au service de projets à impact sociaux et environnementaux. Donc c'est un peu le premier volet. Et le deuxième volet, c'est bien de savoir à quoi sert le numérique. C'est aussi important de s'intéresser sur comment est-ce qu'on fait ce numérique finalement. Et donc nous, aujourd'hui, on travaille sur 5 volets avec Latitude. Le premier, c'est la question de la sobriété. Donc quel est l'impact à la fois dans la conception et dans les usages du numérique. Le deuxième volet, autour de la question de la diversité. Et je sais qu'il est assez cher aux auditeurs et auditrices de ce podcast. Donc évidemment, diversité de genre, mais pas que. Un troisième volet autour de la question de l'accessibilité des différents outils. Un quatrième volet, alors on appelle ça plus respectueux de l'humain, c'est globalement quel impact a le numérique sur la manière dont on, sur notre santé en fait physique et mentale. Ça va être la question de l'économie de l'attention, de l'exposition aux écrans. Et le tout dernier volet, on appelle ça pour un numérique plus citoyen. Et tout simplement, on vient traiter l'impact qu'a le numérique sur la manière dont on fait société. Donc typiquement la question des fake news, la question des libertés privées en ligne, les modèles économiques aussi des plateformes numériques, c'est toutes ces questions-là qu'on vient traiter. Donc voilà un peu les deux volets et les deux côtés en tout cas d'une même pièce, j'ai envie de dire, qu'on traite avec Latitude. Et notre métier aujourd'hui, ce qui sera peut-être un peu plus clair, c'est qu'on fait deux choses.
Je t'interromps là oui. Juste déjà pour réagir parce que c'est énorme en fait ce spectre que vous attaquez. En même temps, ça traduit également la place que le numérique prend dans notre société aujourd'hui, puisque tous ces sujets-là sont extrêmement importants, fondateurs pour plein d'aspects de notre vie quotidienne. Et c'est vrai que je sens derrière cette ambition aussi d'aller justement éduquer, sensibiliser, etc. Avant qu'on passe justement sur comment vous y répondez, est-ce que tu peux revenir sur toi et tes cofondateurs sur d'où ça vient cette envie en fait de se mettre au service de cette cause-là et voilà, comment t'es arrivé là, avec quel parcours?
Alors, c'est une très bonne question et ça permettra de redonner un peu de détails sur la genèse de Latitude. Donc, initialement, Latitude, c'est Manon, Yannick et Augustin qui sont en école d'ingénieurs et qui se posent beaucoup de questions sur comment est-ce que les compétences qu'on leur apprend à l'école peuvent aussi être mises au service de projets qui leur tiennent à cœur. Pourquoi est-ce qu'on nous apprend d'un côté le monde associatif, l'engagement qui peut exister et par ailleurs les compétences techniques, mais qu'en fait, il n'y a aucun lien entre ces deux sujets. Et donc c'est de là qu'est née Latitude et l'objectif premier c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on ouvre un peu de nouveaux horizons en montrant que le numérique peut servir, en tout cas peut être mis au service du bien commun et de l'intérêt général. Et donc moi je suis arrivée un tout petit peu après, j'ai rejoint en cours de route et chemin faisant, donc pour repréciser, au début on travaillait vraiment sur la finalité du numérique et petit à petit on est venu à se poser aussi beaucoup de questions sur les impacts finalement intrinsèques au numérique et sur le fait qu'il manquait aussi cette brique dans l'enseignement. C'était bien de montrer que le numérique pouvait servir à autre chose, mais si on ne s'intéressait pas à toutes les externalités positives et négatives du numérique, il nous manquait une partie. Et c'est comme ça que petit à petit, on a développé la partie qu'on appelle plutôt le côté responsable. Et donc là, plutôt la prise de conscience des impacts numériques et surtout le développement d'un esprit critique face aux usages du numérique.
Avant qu'on en arrive là, tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi, toi, ton parcours avant de rejoindre cette aventure?
Alors moi, j'ai fait des études de sciences politiques et d'économie au Canada, avec une grande envie de travailler au sein du service public pour transformer les choses, faire évoluer les mentalités, les réglementations sur divers sujets. Et je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans une petite structure qui accompagnait pas mal d'entrepreneurs. Ça a été super riche pour la découverte, en tout cas, de quelles sont toutes les problématiques qu'il et elle pouvaient se poser. Et en parallèle, je travaillais pour un média qui explorait le futur du monde du travail. Et j'ai été amenée à coacher des élèves sur des problématiques d'innovation. Et j'ai été beaucoup marquée par le cadre très strict que ces élèves s'imposaient déjà. Et ça a vraiment, en tout cas, entériné mon envie de travailler sur l'éducation. Comment est-ce que, dès le plus jeune âge, on arrive à... ce que je disais tout à l'heure, mais ouvrir des nouveaux horizons, avoir des modèles de réussite en tout cas qui sont assez diversifiés. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Manon Yannick Augustin qui était en train de créer l'association. Et puis la suite de l'histoire sera certainement racontée dans ce podcast.
Voilà, alors là ça y est, je peux te laisser justement nous laisser raconter la suite de l'histoire. C'est comment c'est à partir de cette... enfin, c'est ce besoin identifié, vous actionnez et quelles sont les choses que vous menez justement pour aider cette prise de recul, cette prise de hauteur aussi sur le numérique.
Alors, on aime beaucoup dire souvent qu'on essaye d'agir à la racine, donc de venir au plus proche du problème, de vraiment traiter les causes racines. Et du coup, le premier sujet qui... super clé, en tout cas à nos yeux, c'est vraiment la question de l'éducation et la formation aux nouvelles technologies. Et ça se traduit aujourd'hui par deux choses. La première chose, c'est qu'on a créé des outils de sensibilisation sur ces sujets. Comment est-ce qu'on arrive à mieux décrypter quels sont ces enjeux pour derrière pouvoir s'en prémunir et avoir un regard beaucoup plus lucide sur les technologies. Et pour ça, on a créé des jeux de cartes. Donc on a un jeu de cartes qui s'appelle Future of Tech, qui est dédié plutôt aux élèves de collège et de lycée. Et l'objectif, c'est qu'en fait, c'est un petit jeu dans lequel les élèves vont créer une application mobile. Ils passent par chacune des étapes de création de l'application. Et à chaque étape, il y a beaucoup de questions éthiques qui émergent. Et l'objectif, c'est justement de venir découvrir un peu quelles sont ces questions éthiques à travers un jeu assez ludique. Donc ça, c'est des ateliers plutôt pour le cadre scolaire. Et ensuite, on a créé des ateliers dédiés aux professionnels du numérique et aux étudiants et étudiantes qui s'appellent la bataille de la tech et la bataille de l'IA. Et c'est des jeux de cartes en 2 heures. D'ailleurs, si certaines personnes souhaitent y participer, vous pouvez retrouver sur nos sites, on anime des sessions tous les mois. Et c'est des jeux de cartes dans lesquels on est vraiment sur la création de débats entre les participants et participantes. Et on vient aborder les différents enjeux que j'ai cités au début de ce podcast-là.
Donc, vous avez vraiment sobriété, diversité, etc. Et c'est gratuit ? C'est des sessions qui sont gratuites ou c'est
Exactement. Alors, c'est des sessions qui sont complètement gratuites. Et d'ailleurs, pour pouvoir les déployer, on s'appuie aujourd'hui sur plus de 500 bénévoles partout en France qui se forment à l'animation de ces ateliers. Donc, un peu comme un format, si certains et certaines connaissent, par exemple, des fresques. Et ces animateurs, animatrices vont ensuite bénévolement animer dans un certain nombre de structures, dont beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur.
Et quand on anime, on se spécialise sur un sujet ou c'est vraiment... Enfin, les 2 heures que tu consacres, c'est sur un sujet ?
Ou c'est Alors, l'animation sur les 2 heures, c'est tous les sujets confondus. D'accord. Justement, l'objectif de l'atelier, c'est d'avoir une vision un peu holistique de quels sont tous les enjeux numériques et surtout comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont tous liés les uns aux autres. Et la deuxième partie de l'atelier, c'est identifier des pistes de solutions pour se mettre en mouvement. Parce que souvent, l'enjeu, c'est aussi, j'ai bien compris quels sont les sujets, mais je me sens un peu perdue, je ne sais pas exactement par où commencer. Et donc, l'objectif, c'est de donner des billes très concrètes pour pouvoir se mettre en mouvement. Et donc, la formation, l'atelier, c'est vraiment sur l'ensemble des 6 sujets.
Comment vous avez intégré l'arrivée de... Je peux pas ne pas poser cette question, mais comment vous avez intégré l'arrivée de l'IA générative dans le panorama numérique qui a pris un peu tout le monde par surprise, même si c'était en gestation depuis longtemps ?
Alors, c'est aussi une bonne question. On a en fait tout simplement créé un nouveau jeu de cartes sur le sujet. Qui s'appelle la bataille de l'IA et qui est spécifiquement sur les impacts socio-environnementaux des IA génératives. Alors, je précise, on a eu la chance de s'appuyer sur une autre association qui s'appelle Data for Good, qui regroupe des data scientists qui mettent en place des projets de data, souvent pour des associations. Et en fait, ils ont écrit un livre blanc cet été sur les impacts des IA génératives. On les connaît assez bien et on s'est dit, tiens, ce serait super intéressant qu'on croise nos expertises. Nous, on s'est créé des contenus pédagogiques faciles à transmettre. Eux, ils ont produit un contenu très détaillé sur les impacts des IA génératives. Faisons-en un jeu. Et c'est comme ça qu'est née la bataille de l'IA. Et donc, sur les mêmes modalités, c'est gratuit. On peut y participer tous les mois et on peut aussi se former à animer cet atelier.
Bah écoute, moi je suis partante. Hein. Comment ça se passe quand vous faites donc ces jeux, si j'ai bien compris, vous allez dans les écoles. Comment ça se passe ? Quelles sont les réactions que vous avez ? Est-ce que ça change le regard ? Comment justement vous recueillez ces feedbacks ?
Oui, alors il y a deux pans de réponse. Le premier, c'est comment est-ce que les établissements et donc les directions reçoivent ces ateliers. Il y a forcément toujours un premier travail quand même de conviction auprès de ces acteurs-là sur l'intérêt de mettre en place ces ateliers pour les élèves, pour les étudiants, étudiantes. Ceci étant dit, les choses ont beaucoup évolué. Nous, en 7 ans, on voit quand même une énorme différence entre des sujets sur lesquels on avait besoin de faire beaucoup de pédagogie sur l'importance des sujets, là où maintenant on a des établissements qui viennent nous chercher de notre côté en disant nos élèves sont demandeurs, il y a aussi des nouvelles législations sur le sujet, donc on a besoin de former nos élèves, est-ce que vous auriez des outils à disposition ? Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est auprès des élèves, étudiants, étudiantes. Alors, on recueille les retours à travers des formulaires de mesure d'impact en fin de session et on a des retours qui sont très, très diversifiés. Alors, globalement, c'est plutôt très bien pris. En fait, on vient mesurer à chaque fois dans quelle mesure est-ce que les élèves ont l'impression de mieux comprendre les impacts socio-environnementaux du numérique. On vient mesurer dans quelle mesure est-ce qu'ils disent, en tout cas, avoir envie de s'engager. Et pour donner quelques chiffres, on a par exemple 88% des participants-participantes qui disent qu'à la fin de l'atelier, ils sont plus en mesure de comprendre les impacts socio-environnementaux du numérique. On en a, alors je n'ai même plus les chiffres en tête spécifiques, mais c'est 71%, il me semble, qui disent avoir envie de s'engager. On mesure aussi celles et ceux qui ont découvert des méthodes pour s'engager. Et on a des retours qui font très chaud au cœur. Une personne qui nous partageait il y a pas longtemps que l'atelier avait réveillé son envie de s'engager pour la diversité dans son établissement. On a beaucoup de personnes qui nous disent aussi, alors je pense que c'est vraiment le cas de l'enseignement supérieur, qu'ils n'ont pas l'habitude d'être dans cette posture active, puisque c'est vraiment des débats où on leur donne les clés. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, ou porter un regard manichéen sur le sujet. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à se poser des questions par soi-même. Et donc, cette posture très active dans laquelle l'avis de chacun et chacune est écouté, c'est aussi des choses qui surprennent en positif, il me semble.
Certainement, je serais vraiment curieuse de voir ça. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail, si ça ne t'ennuie pas, sur deux, trois clés sur la diversité, justement? Quelles sont les choses sur lesquelles vous encouragez vos participants à s'interroger?
Oui, alors ce serait encore mieux que je puisse partager les cartes en direct. Il y a évidemment la question assez générale du pourcentage de femmes qui travaillent dans le numérique et surtout ensuite de la spécification entre des métiers techniques et des métiers davantage de support, parce que à nouveau les chiffres sont quand même drastiquement différents. On est plutôt autour de 30% de femmes dans le numérique et 11% autour de certains métiers techniques. Donc, première chose sur lesquelles on vient s'interroger. On travaille aussi sur l'origine socio-professionnelle des personnes qui travaillent dans le domaine du numérique. Comment est-ce que certaines catégories socio-professionnelles sont surreprésentées dans le numérique, d'autres moins, et quelles sont les explications, en tout cas, qu'on peut mettre derrière ces constats-là. Et ensuite, on vient travailler aussi, en tout cas, on vient questionner sur, par exemple, la question de la culture, la broculture qui peut exister dans un bon nombre d'entreprises tech. En quoi est-ce que ça conduit un certain nombre de femmes à quitter aussi cet univers numérique, bien qu'elles aient réussi à y entrer et à gravir déjà tous les premiers échelons, à passer en tout cas toutes les premières barrières qui peuvent exister. Donc voilà un peu quelques-unes des thématiques. Et typiquement, pour donner la toute première question, en tout cas de la bataille de la tech, c'est des photos de Ada Lovelace, Grace Hopper et Margaret Hamilton, qui sont des informaticiennes assez peu connues, bien qu'elles aient eu une importance assez folle sur l'invention du numérique. Et on vient questionner tout simplement les élèves à savoir est-ce qu'ils connaissent ou pas ces personnes-là et qu'est-ce qu'elles ont bien pu faire pour faire avancer le numérique.
Je trouve ça très intéressant. Et bien sûr, moi, je suis convaincue de ce besoin d'aller sensibiliser très jeunes pour justement prendre le recul. Et je pense à des sujets très importants comme dont on entend parler dans l'actualité, comme les réseaux sociaux et le harcèlement via les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est un sujet qui doit beaucoup préoccuper, j'imagine, notamment la partie enseignant.
Oui, alors c'est un sujet qui a beaucoup d'importance, surtout auprès des collèges et des lycées, qui en tout cas revient davantage sur le devant de la scène. Et d'ailleurs, il y a une des sections du mini-jeu dont je parlais qui est dédiée justement à ce sujet-là. Et aujourd'hui, il y a d'autres structures qui font un travail assez formidable dessus. Par exemple, e-Enfance, qui est une structure qui intervient spécifiquement sur la question du cyberharcèlement au sein de collèges et de lycées sur ce différent sujet.
Nickel. Alors, écoute, ce que j'aimerais comprendre maintenant, c'est, et que tu dises à nos auditeurs et auditrices, c'est comment vous vivez, en fait, puisque l'association existe depuis 7 ans et que vous avez bien sûr des bénévoles, mais vous, en tant qu'association, vous avez des choses à financer. Donc, comment vous vivez? Et le pendant de ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider?
Alors, donc l'association, aujourd'hui, on a trois sources de revenus principales. La première, c'est qu'on fait de la prestation de services. On va créer des programmes pédagogiques sur mesure pour certains établissements d'enseignement supérieur et pour des entreprises. Donc ça représente à peu près un tiers de nos revenus. La deuxième chose, c'est qu'on est financé à travers du mécénat d'entreprises. C'est souvent des entreprises du numérique qui souhaitent participer aussi à leur échelle à transformer en tout cas le regard et la narrative autour du numérique. Et la dernière source de revenus, à peu près un tiers à nouveau, ce sont des subventions publiques, que ce soit à l'échelle nationale ou plutôt locale. Et du coup, deuxième question, comment est-ce qu'on peut nous aider? Je le partage en préambule, mais on s'appuie sur un certain nombre de bénévoles pour diffuser nos actions de sensibilisation. Donc si à votre échelle, vous souhaitez aussi transmettre et animer des ateliers, que ce soit sur la question des IA génératives, que ce soit sur le numérique au global et auprès de plus jeunes ou de moins jeunes, il est possible de s'inscrire directement sur le site de l'Attitude à nos prochaines sessions de formation. Et autre chose que j'ai pas précisé tout à l'heure, et c'est ce que je disais dans les actions de l'association, on a vraiment deux volets. Là, on a parlé du volet sensibilisation. Deuxième volet de ce qu'on fait chez Latitude, c'est qu'on crée des programmes d'engagement. Et donc, c'est des programmes sur lesquels on donne les clés pour concrètement se mettre en mouvement. On a des programmes assez courts. Par exemple, je suis un professionnel ou une professionnelle du numérique. Je vais venir partager mon expertise pendant une heure avec une association qui n'a pas forcément les compétences en interne, mais qui se pose les questions de ajouter des fonctionnalités à son application, créer un nouveau site web. Et donc, c'est vraiment des petites sessions de conseils d'une heure. Et là, à nouveau, il est possible de devenir bénévole en allant sur le site de Latitude, en partageant ses expertises. Et ensuite, on vient choisir l'association avec laquelle on souhaite échanger parce qu'on se sent légitime pour venir aider à notre échelle et souvent découvrir aussi la mission de l'association qui a tout plein de choses à nous apprendre. Et puis, on a des formats d'engagement plus longs. On a, par exemple, des élèves qui travaillent sur de la réutilisation de données publiques dans le cadre de leur cursus et qui vont, par exemple, travailler sur quel est le lien entre l'accidentologie à vélo et l'aménagement du territoire et comment est-ce que toutes les données collectées autour de l'accidentologie à vélo peuvent nous permettre de créer des politiques publiques sur l'aménagement du territoire. Et l'objectif de ces programmes plus longs, c'est que dès le cursus, en tout cas, qu'on puisse montrer aux élèves qu'il y a des super beaux applicatifs dans lesquels leurs compétences peuvent servir à améliorer le bien-être global de la société, et souvent près de chez eux, typiquement, si c'est la question de l'aménagement du territoire.
Donc, je reviens sur ce point du bénévolat. Est-ce qu'il faut être étudiant ou est-ce que c'est toute personne qui souhaite s'engager ?
Alors, c'est ouvert absolument à toute personne qui souhaite s'engager. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup... Alors, c'est très diversifié. On va avoir des étudiants et étudiantes qui sont en fin de parcours et surtout même des jeunes professionnels qui ont eu des expériences de bénévolat dans le monde universitaire et souhaitent réitérer, en tout cas, ne pas perdre cela. On a des personnes qui sont plutôt en fin de carrière et qui ont envie de transmettre. On a beaucoup de salariés aussi qui se rendent bien compte qu'ils ont des compétences, en tout cas qu'on valorise beaucoup d'un point de vue sociétal et qui souhaitent les mettre à profit aussi d'autres types de structures. Donc c'est très diversifié et c'est aussi accessible à des personnes qui n'ont pas forcément de compétences numériques. Typiquement, pour faire des ateliers de sensibilisation, on a des formations qui durent un mois dans lesquelles on vous accompagne à la fois à mieux comprendre quels sont les enjeux qu'on souhaite traiter et surtout adopter une posture d'animation et de facilitation pour faire en sorte que les ateliers se passent au mieux. Donc, c'est possible pour tous les publics initiés et non initiés.
Et ça, c'est génial parce que, tu vois, j'ai trouvé très frustrant que certaines initiatives soient réservées à des salariés, voire des salariés de grandes entreprises et que, par exemple, moi, en tant qu'indépendante, je ne puisse pas m'engager sur du mécénat de compétences. Quelque part, ça revient à ça, justement parce que je ne faisais pas partie de ce genre de structure. En tout cas, ça répond à un besoin aussi de plein de personnes de donner du sens à ce qu'ils font et justement, comme tu dis, de mettre leurs compétences au service d'associations et de projets qui leur tiennent à cœur. Donc, génial et bravo pour tout ce que vous faites avec Latitude, avec vos bénévoles et tes associés. Donc, Margot, merci mille fois pour ça. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ?
Alors, vous pouvez nous contacter à travers le site latitude.cc. Et sinon, honnêtement, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot. C'est assez simple, c'est Margot, M-A-R-G-A-U-X, @latitude, donc LATITUDES.cc. Et on est assez proche de nos bénévoles, de nos partenaires, et on a la chance d'être dans un bel écosystème. Donc, on essaye de rester assez accessible. Donc, n'hésitez pas à me glisser un petit mail, ce sera encore le plus simple.
Eh bien, merci beaucoup, Margot, d'avoir partagé ta vision de la tech engagée.
Un grand merci à toi, merci à toi, Aurélie.
Chères auditrices et auditeurs, j'espère que vous avez aimé cette discussion et surtout que vous aurez envie d'aider Latitude, pourquoi pas de vous engager dans sa mission en la faisant connaître également. Je vous encourage également à visiter le site podcaston.org. Ça s'écrit P-O-D-C-A-S-T-H-O-N. Pour découvrir des centaines d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Vous avez la possibilité de faire des dons à travers le site également. On se retrouve dans quelques jours pour rencontrer une autre femme engagée dans la tech for good. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais d'explorer.